va ouvrir dans Éphésiens. Éphésiens. Vous savez pas encore quel chapitre, hein ? Je vais vous dire ça. Éphésiens chapitre 3 et verset 15. Éphésiens 3, 15. On va lire à partir du verset 14. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Seigneur, nous te prions que ta parole ce matin nous édifie, nous fortifie, nous dirige, Seigneur, selon tes voies, Seigneur, et selon, Seigneur, ta pensée. Que ton esprit, Seigneur, nous inspire et m'inspire particulièrement. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, disons, j'anticipe un peu sur ce qui va se produire à la rentrée, parce que je médite là-dessus en ce moment. C'est sur le thème de la famille. Famille. Vous arrivez à lire dans le fond, parce que je ne sais pas si c'est assez grand. J'écris plus grand, c'est bon, la famille. Alors vous savez que quand on parle ensemble, on utilise des mots. Hein, on utilise des mots. Et ces mots, ça sert à quoi ces mots ? Pardon ? Voilà, ça traduit les pensées. Et je dirais même plus que ça, ça traduit une réalité. Vous voyez, si par exemple je dis un arbre, vous voyez dans votre tête des arbres parce que vous avez vu des arbres. Donc vous pensez à la réalité parce que l'arbre, en tant que mot, ça veut rien, ça ne représente rien, ça signifie quelque chose de réel. Donc un arbre, vous voyez l'arbre. Si je veux que vous voyiez un sapin, il faut que je précise quel type d'arbre c'est. Ou si c'est un olivier ou un oranger, vous voyez. Donc le langage... La langue, c'est signifiant, ça signifie quelque chose, ça représente quelque chose, une réalité. Or, le mot famille, quand on lit, je bénis le Seigneur, le Père de toute famille qui donne l'autorité, le nom à sa famille. Qu'est-ce que veut dire le mot famille ? C'est ça qui est important. Alors, c'est vrai qu'on est dans une église où on a cette vision de la famille, mais en même temps, le mot famille est très large. Alors, vous savez que ceux qui font les lettres, quels sont ceux qui sont plutôt lettrés, qui ont fait des bacs lettres ? Lève bien la main, parce que... Lettres. Oh là, il y a des lettrés ici. Lettres. Michel aussi ? Lettres. Lève la main. Voilà. Bah oui. Quels sont ceux qui sont plutôt scientifiques ? Waouh, il y en a moins. Scientifiques, bac S par exemple. Bac S, levez la main. Non mais c'est important. C'est pour montrer qu'il y a une disparité, d'approche, de représentation. Quels sont ceux qui sont entre les deux ? Hein, c'est les bacs, bac ou bas bac, on s'en fiche du bac. Mais... voilà, quelle est la sensibilité, ceux qui font biologie, c'est-à-dire qui ont besoin de scientifiques et puis aussi de littéraires. Quels sont ceux qui sont entre les deux ? Ouais ? Économie, c'est ça. Voilà, levez la main. Voilà. Bah, vous êtes peut-être le mieux placé pour bien comprendre les deux mondes là. Hein, vous voyez, il y a des sensibilités d'approche. Hein, d'approche, ça c'est notre cerveau qui est construit d'une certaine manière pour se représenter les choses plutôt de manière littéraire, plutôt de manière scientifique, etc. Ceux qui sont littéraires, hein, bon, je parle plutôt de ceux qui font cagne, hypocagne. Il y en a qui sont ici, qui font normal sup, littéraire, non. Parce que ces gens-là, ils sont obligés, pour être littéraires, de faire du grec et du latin. Pourquoi du grec et du latin? Tu fais du grec et du latin? T'en as fait un peu? Bon. Alors, t'es pas un littéraire pur, alors. Voilà. Ceux qui font du grec, toi tu en as fait, Aimé? Ah ben voilà, vous en avez un vrai littéraire là, Aimé. Voilà. Alors je t'envie parce que j'aurais bien voulu faire ces études là maintenant en tant que pasteur, hein. Parce que moi je suis scientifique, mais j'ai beaucoup recours, hein. Alors heureusement j'ai ma femme qui l'a fait. Alors quand j'ai une question, paf, je me tourne vers elle, je lui demande. Le grec et le latin, c'est l'origine de notre langue. Il y a des mots qui nous viennent du latin et il y a des mots qui nous viennent du grec. Et si on remonte à ce que ça signifie en grec ou en latin, on comprend mieux. Parce que le mot famille, par exemple, il vient de quoi? De quelle langue? Pardon? Du latin. Voyez-vous le littéraire? Il a la réponse. Juste. Latin. Voilà. Ah, c'est le latin. Mais il y a un autre mot qui veut dire la même chose. Et vous savez que le Nouveau Testament est écrit en grec. Quel est le terme grec qui est utilisé dans la Bible, qui est inspiré de Dieu, dans la langue originale, le grec? Quel est le mot qui est utilisé à la place de famille? Pardon? Non. 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 Qui va gagner les 1000 euros ce matin? Voilà. Qu'est-ce qui va gagner les 1000 euros? Je compte jusqu'à 3. Ah, c'est les vacances. Quel est le mot qui est utilisé en grec, donc dans la Bible, telle qu'elle a été écrite, telle qu'elle nous a été communiquée? Et vous allez voir que ça va vous parler tout de suite. Vous le savez, ce mot-là. Hein, vous le savez. Vous n'avez pas besoin d'être helléniste pour le savoir. On fait tous du grec sans le savoir, comme la prose. Oui. C'est... Pardon? Patria. Bien. Vous voyez, quand il creuse dans sa mémoire littéraire, il trouve. C'est ça la puissance de littéraire. C'est patria. Patria. Ce mot est donné le mot à quoi? Patrie. Patrie. Patriarche. Pater. Voilà. Pardon? Ah, les deux, c'est pater, c'est vrai pour le latin et le grec. Vous voyez, quand on arrive à l'étymologie du sens, quel est le sens? Le langage, c'est du sens. C'est pour ça, moi, j'aime bien, et moi, j'ai derrière moi une bibliothèque avec tout plein de dictionnaires, et maintenant, j'ai Internet, enfin, aujourd'hui, il ne marche pas. Je cherche tout le temps le sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens de ce que je vais dire? Parce que si je vous dis quelque chose qui est un non-sens, vous allez sortir d'ici et vous allez être déboussolé. Il faut que la parole, il faut que le langage donne du sens, c'est-à-dire donne une boussole, le nord, dans lequel sens on va aller. Donc pater, père, est commun au latin et au grec. Donc l'origine, c'est père. Les pères. Donc famille, patria, le sens étymologique qui a donné ces noms-là, c'est issu du Père. Or, qu'est-ce que nous venons de lire dans Éphésiens, qui est la parole de Dieu? Et je relis ce passage, Éphésiens 3, verset 15, verset 14 et 15. « C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père. » Je fléchis les genoux devant le Père. Voyez-vous la sacralité du sens, du patria, devant le Père. De qui? Alors c'est de quel Père qu'il s'agit là? Du Père céleste, de Dieu. Dieu, Père. Amen. Dieu le Père, il est au-dessus de tout. C'est l'autorité suprême. Alors, c'est pareil, j'utilise un mot autorité, qu'est-ce que ça veut dire ? À quoi ça renvoie ? Qu'est-ce que veut dire autorité ? Jérôme est un bon linguiste aussi. Il est l'auteur, le créateur. Qu'est-ce que ça veut dire encore, l'autorité ? Quand vous dites autorité, à quoi vous pensez ? Soi-même ? L'ordre ? Le droit ? Alors le droit de, je préciserai un petit peu, le droit de quoi ? De commander. L'autorité, c'est le droit de commander et d'être obéi. Attention, hein, parce que commander et puis les gens font ce qu'ils veulent, c'est pas la vraie autorité. La vraie autorité, c'est je commande et celui que je commande, il obéit. Comment est-ce que Jésus a illustré cette vérité ? Tiens, Sylvestre. Il y a quelqu'un qui pense à quelque chose ? Oui ? Oui ? Mais comment est-ce qu'on l'a vu qu'il enseignait ? À qui est-ce qu'il a donné une félicitation en disant « Toi, mon gars, je te félicite parce que jamais en Israël... » C'est qui ? Le centenier romain ? Centurion ou centenier, je ne sais pas si c'est la même chose, mais bon. Enfin, je sais que c'est le centenier. Centurion, bon. Centenier romain. Le centenier romain, il a reconnu l'autorité. C'est-à-dire, il a reconnu que Jésus avait le droit de commander. Pourquoi ? Parce qu'il avait un esclave qui était malade et il a demandé la guérison. Et Jésus lui a dit, va, ton fils est guéri. Et il a cru. Parce qu'il a reconnu l'autorité. L'autorité, c'est le droit de commander. Alors dites-le tous ensemble. L'autorité, c'est le droit de commander et d'être obéi. Et d'être obéi. Si vous n'êtes pas obéi, c'est pour ça dans l'armée, un sergent, il a envie d'être obéi. Nous, on avait un maire, là, il a été débarqué, heureusement. C'était un colonel de l'armée. Il voulait que tout le monde lui obéisse. Tous ses ordres, même les plus fous, il fallait obéir. Ben, c'est ça l'armée, pour obéir. Mais ça, c'est la contrainte. Dieu le Père, il est l'autorité, mais la bonne autorité, qui est parfaite. Il ne donne pas des ordres n'importe quoi. Il ne nous demande pas de faire n'importe quoi, voyez-vous ? C'est ça la différence. Les hommes veulent imiter Dieu dans l'autorité, mais eux, ils font n'importe quoi, parce qu'ils sont pécheurs. Ils font parfois des bonnes choses, ou plutôt des bonnes choses, et parfois des mauvaises, mais on ne va pas être obéi dans les mauvaises. C'est pour ça qu'on peut désobéir à l'autorité, mais en étant soumis. Vous voyez ? Soumission, c'est une attitude de respect, mais voilà, mais ça, c'est un autre message. L'autorité. Droit de commander et d'être obéi. Le Père a l'autorité. Ça, c'est le Père Céleste. Le problème dans la famille naturelle, pour revenir à la famille naturelle, famille père, enfant, petits-enfants, machin, etc., la famille naturelle, il y a un système qui s'est mis en place d'autorité, un système qui s'appelle quoi ? C'est Hélène qui l'a dit tout à l'heure. Le patriarcat. Le système du patriarche. Patriarcat. Le cas en linguistique, ça veut dire c'est la puissance du père, quoi. Patriarcat. Puissance du père. Patriarche. Patriarche. Alors, il y a beaucoup de chrétiens qui admirent Abraham. Abraham. Sa femme lui disait, mon prince, mon seigneur. Et tous les hommes, ils aspirent à être appelés prince et seigneur. Ouais. C'est quelque chose qui monte à la tête. Ah. Ma femme et mes pieds, voilà. Un peu la serpillière, tout ça. Voilà. Le tapis brosse. Non, vous voyez, ça c'est une déviance complète. Une déviance complète. Alors, pour réagir, c'est quoi l'opposé du patriarcat ? Matriarcat. Ma mère. Donc le système opposé, c'est le matriarcat. Sachez que quand il y a toujours une chose, il y a toujours son contraire. Parce qu'il y a toujours des tensions. Alors les mères ou les femmes qui en ont marre du patriarcat, ils inventent le matriarcat. Voilà. Alors, il y a des journalistes qui s'emparent de tout ça, qui te font des thèses en disant, ouais, il y a des peuples qui sont dans le matriarcat, ils vivent mieux que dans le patriarcat. Voilà, les mères qui commandent, etc. Pourquoi pas? Le problème, c'est que c'est pas, la Bible ne dit pas ça, parce que Dieu est l'inventeur, le créateur de toutes choses. Donc, lui, il sait comment ça doit marcher. Or, il a dit que c'est le Père, mais pas le patriarcat, pas la puissance du Père. C'est l'autorité de Dieu le Père. Et l'homme, il a dévié. Il a dévié à cause du péché. Au lieu d'adorer Dieu, il adore les idoles. Donc il adore le Père. Le Père, idole, tout puissant. Et ça donne le patriarcat. C'est l'idolâtrie. C'est tout. Donc on revient à l'idole, l'adoration d'idole. Ici, je vais vous parler de la famille selon la Bible. Donc de la patria selon la Bible. Amen. Alors, on va revenir au mot famille. Famille, essayer de comprendre ce qu'il y a derrière le mot famille. Alors, qu'est-ce que c'est une famille? Qui peut me donner une définition quand on dit famille? Quel est le sens de ce mot? Quelles sont les réalités qui sont derrière ce mot? Famille. Pardon? Alors, une définition le plus générale possible, parce que vous allez voir que famille, ça s'adresse, parce qu'il est marqué le père de toute famille. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de familles. Il n'y a pas qu'une famille. Il y a tas de familles. Quand j'étais petit, mais je cherche dans ma tête, je ne sais plus. Il y a un jeu de sept familles, c'est ça? Voilà, jeu de sept familles. Voilà. Alors, je vous écoute. Quelle est la définition de famille? Alors, lancez-vous. Waouh, ouais, il a écrit Larousse, lui. C'est exactement ce qu'a dit Larousse. Waouh. Puissant. C'est un ensemble de personnes ou d'individus, si vous voulez, ou d'individus, ou un groupe de personnes. Qui quoi? Alors là, tu parles déjà d'une certaine famille. Mais c'est pas assez général. Oui, tu as raison, mais c'est pas assez général. Ils sont reliés entre eux, oui. Ah, voilà. Vous voyez, pour être académicien, il faut être très large, hein, de compréhension. Voilà. C'est un groupe, voilà. Voilà. Qui ont, alors ça c'est la définition du Larousse, qui ont des traits généraux commun. Oui, c'est pas compliqué de faire un dictionnaire. Il suffit de connaître le sens des mots. C'est pour ça qu'on a des académiciens qui nous font ça et qui révisent les choses. Donc le mot famille, si on veut être le plus général possible sur le terme famille, c'est un groupe de personnes ou d'individus qui ont des traits généraux communs. Alors après, on décline. On peut décliner. Alors, il y a la famille naturelle. Enfin, je ne sais pas exactement si c'est ce mot-là qui est attribué, mais bon, moi je la comprends comme ça. Famille naturelle. Père, mère, enfant. Qu'est-ce qu'ils ont comme traits généraux communs? Le sang. Ça passe par le sang. Et plus loin que derrière le sang, maintenant avec les microscopes électroniques, on sait ce qu'il y a dans le sang, c'est l'ADN. On revient à l'ADN. L'ADN. Des petits chromosomes, hein, qui se construisent pour faire un être humain qui donne un ADN en fonction de ce que donne le père, le spermatozoïde du père et l'ovule de la mère, et ça donne un ADN. Cet ADN-là, ça c'est très fort, hein, la famille naturelle c'est très fort, parce que l'ADN, hein, qui est, quand on le regarde au microscope, c'est une double spirale sur laquelle il y a inscrit des informations. Hein? La biologie, si vous voulez être un bon biologiste, il faut être un bon informaticien, c'est-à-dire un bon traitement de l'information. Parce que c'est que de l'information. L'ADN, ce n'est que de l'information. Par exemple, sur cet ADN, c'est marqué « il aura des yeux bleus ». Pourquoi? Parce qu'il y a une information qui donnera les yeux bleus. il y aura une autre information qui dira ce garçon, cette fille, ce sera un garçon ou une fille, un autre ADN dira, ben, lui, il sera un peu voilà, expansif, l'autre un petit peu moins, etc. Vous voyez, ce sont de l'information, l'ADN. Donc ça, c'est très fort, parce que chaque être humain dans la famille naturelle est déterminé par cette façon d'être. Prenons maintenant la famille surnaturelle. Surnaturelle. On pourrait l'appeler aussi spirituelle. Et là, je me tourne vers Yves, qui a déjà commencé à donner la réponse. C'est quoi la famille spirituelle, la famille surnaturelle? C'est aussi une famille qui a des traits généraux communs. Comment est-ce qu'elle marche? Comment est-ce qu'elle est supposée marcher, cette famille? C'est là, elle marche avec l'ADN. Ok. Pardon? Voilà. La naissance d'en haut. La naissance d'en haut. Et qu'est-ce qu'elle donne, cette naissance d'en haut? Pardon? Exactement. Ah, il a tout compris, les principes du royaume. Hein. On est prêt à aller à la CEF, là. Et oui. Exactement. Dans la structure de la famille surnaturelle, il y a aussi un ADN. Allô? C'est le TQP. Tous ceux qui ont fait le TQP, ils apprennent qu'il faut marcher par l'esprit pour éviter de marcher dans la chair, parce que une autre manière, la Bible dit, ici c'est la chair, ici c'est l'esprit. Donc en tant que chrétien, on est supposé de passer de là à là, tout en restant là. Il ne faut pas renier sa famille, hein. Il ne faut pas renier les siens. Donc on doit rentrer dans la famille surnaturelle, spirituelle, qui, elle, a aussi un ADN. C'est l'ADN du royaume, des valeurs du royaume. Sur chaque spirale de cet ADN, si vous voulez, bon, c'est une image, hein, sur chaque spirale, il y a des informations. Cette information, ça veut dire quoi? Ici, tu ressembleras à ton... Je ne l'ai plus, c'est de l'autre côté. Tu ressembleras à ton père céleste. Qu'est-ce qu'il est, le père céleste, Jean-Claude? Est-ce qu'il est méchant? Voilà. Vous voyez? C'est clair, net et précis, il est bon. Voilà. Il a décrit le père. Ah oui. Donc, comment tu dois être dans cette famille surnaturelle? Bon. Donc, tu dois être bon avec Anaïte. Ce que tu es, mais c'est juste un rappel. Okay. L'ADN décrit l'ADN décrit la nature de ce qu'on est supposé être. La seule différence entre les deux ADN, c'est que lui, il nous détermine et lui, il nous invite à être. Parce que Dieu nous laisse la liberté d'accepter cet ADN ou de ne pas l'accepter. Donc on est responsable. C'est pour ça qu'il demandera des comptes. Il nous rendra. On devra tous rendre des comptes au jugement dernier. Est-ce que on a accepté de vivre selon cet ADN? Alors bon, la prédication ce matin, c'est pas sur le détail, ça vous l'aurez à la rentrée, de cet ADN. Hein, mais c'est l'ADN spirituel. Autre famille, donc naturelle, je reprends ici pour résumer, naturelle, surnaturelle. Est-ce qu'il y a d'autres groupements de personnes ou d'individus qui peuvent être une famille? Je vous donne un exemple juste pour vous distraire. La famille des orchidées. On dit la famille des orchidées. Ça n'a rien à voir avec des êtres humains. Mais la famille des orchidées, ça veut dire que c'est un ensemble d'êtres biologiques, donc de l'ordre de fleurs, de plantes. Vous voyez. On utilise le mot famille pour un tas de choses. Donc sur les êtres humains, pour revenir, là, j'ai voulu vous sortir... de vos neurones pour vous montrer que voilà, famille est très largement utilisée sur des concepts de la base de la définition qu'on a tout à l'heure. Mais si vous revenir aux hommes, les ethnies, ethnos, bien, il nous ramène au grec. Les ethnies, oui, il y a des choses en commun. Mais voyez-vous, quand... Malheureusement, j'aurais dû mettre surnaturel là-haut. Voilà. Donc surnaturel, c'est spirituel. Naturel, c'est donc naturel à tout être humain. Donc ici, l'héritage de l'ADN, c'est Adam. D'accord ? C'est Adam, c'est le père. Voilà. Ici, c'est le nouvel Adam. Hein ? C'est pour ça qu'en tant que chrétien, il faut qu'on passe de notre nature adamique, Adam, au nouvel Adam. Je suis une autre personne en Christ. C'est tout l'enseignement du torrent qui purifie. Être en Christ. Naturellement, je suis en moi. Je suis ce que mes parents, mes grands-parents, enfin, des fois ça monte très loin de la génération, paf, une organisation d'ADN qui fait que, voilà, ah bah tiens, lui, il ressemble à sa grande tata là-bas, voilà. Lui, il a ces traits-là, voilà, des fois on cherche voilà, à qui il ressemble. Voilà. Parce que naturellement, il y a une composition génétique qui fait que l'ordre dans la nature fait qu'on hérite de certaines choses. Mais dans le domaine spirituel, il faut que, ici, eh bien, on accepte de vivre selon Jésus-Christ. Voyez-vous ? Selon Jésus-Christ, qui lui est notre modèle d'être surnaturel, naturellement surnaturel. Hein, il était dans son corps un être humain et un être spirituel en même temps. Il était parfaitement Dieu et parfaitement homme. Donc nous avons un modèle. Hein, le vrai modèle que nous avons, c'est le nouvel Adam qui est spirituel, mais qui a fonctionné dans le domaine naturel comme le nouvel Adam et non pas comme l'ancien Adam. La preuve, c'est qu'il a accepté de mourir à la croix. L'ancien Adam n'a jamais accepté de mourir à la croix. Il a été tenté par sa femme, qui a été tentée par le serpent, et voilà, et toute la chaîne, et c'était la catastrophe. Donc il y a des familles ethniques, ethnos. Est-ce qu'il y a d'autres familles ? Politiques. Ah oui. La famille, je ne sais pas, UMP, la famille socialiste, la famille communiste, la famille... Oui. Hein, politique. C'est-à-dire, ce qu'ils ont en commun, c'est une forme de pensée. Okay ? C'est une manière de penser comment on devrait gouverner la France, ou les États-Unis, ou n'importe quel pays. C'est une famille. Et quand ça se bagarre dans les familles, vous voyez, ça se déchire dans les familles. Parce que justement, les pensées sont différentes à l'intérieur de la même famille. Donc vous voyez que c'est pas parfait. Est-ce qu'il y a d'autres familles que vous pouvez me citer ? Pardon ? Absolument, des familles scientifiques. Par exemple, la famille de ceux qui pensent à l'évolution, vous voyez, hein, ils se bagarrent sec, hein. Le christianisme, l'évolutionnisme, tout ça, voilà, des communautés ou des familles scientifiques. Est-ce qu'il y a d'autres familles ? Pardon ? Économiques aussi, absolument. Hein. Parce qu'il y a des modèles économiques, donc voilà, économiques. Est-ce qu'il y a d'autres familles ? Qui sont soudées. Voilà, humaniste, alors ça c'est plutôt des familles, comment je dirais, idéologiques. Quoi. Idéologiques, des idées. Idéologiques. Et religieuses. Voilà, famille protestante, famille catholique, famille baptiste, famille Four Square, hein, on a entendu le mot famille. Il y a aussi des familles. Ah, absolument. Bien. Linguistique, absolument. Bon, on pourrait continuer comme ça. Vous avez compris le principe. Il y a aussi des familles secrètes. Hein, hein, la famille maçonnique. Les francs-maçons, par exemple. Eux, leur idéologie, c'est qu'ils pensent qu'il y a une correspondance entre le ciel et la terre. C'est très spirituel, hein, famille maçonnique. C'est la compréhension occulte des choses. C'est-à-dire qu'il y a l'occultisme part sur le principe que dans le ciel et sur la terre, il y a une correspondance. C'est pour ça qu'il y a l'influence des astres, l'influence. C'est de la magie, quoi. Bon. Moi, j'ai connu la famille des Gadzars. Gadzars, c'est les Gadésars. j'ai fait l'école des arts et métiers, et on a toute une procédure d'initiation très forte. Moi, j'ai un petit livre écrit en gothique et tout ça, que j'ai dû faire avant de rentrer dans l'école. Enfin, c'est des anciens élèves qui m'ont envoyé ça. J'ai tout écrit. Michel, regarde ça des fois. Voilà, ce que j'écris en gothique, et tout ça, tout est en gothique. En plus, quand on l'écrivait, il fallait qu'on s'agenouille, qu'on se voile la face devant le vénérable qui était devant nous. Enfin voilà. Enfin, c'est très vieux parce que l'école date de Napoléon Ier. Et cette communauté de Gadzar, c'est simplement, on se soutient. Si moi j'étais débauché quelque part, la communauté me cherchait un boulot. Voilà, cherchait un boulot. C'est pas méchant. Mais c'est une famille, ça se considère comme une famille. Aujourd'hui encore, je suis sorti de l'école il y a combien, 45 ans. Ils sont soudés, mais comme mon premier temps. Hein. Ils m'écrivent des mails, tout ça, ils se voient. Tous les mois, ils se voient. Tous les mois. Ils sont à Paris, ils se voient. C'est fou, quoi. Non, c'est une véritable famille. Et quand il y en a qui est mort, tout le monde le sait. Les gens, ils vont. Il y a une femme de. Non, un mégazard, truc de promo là, qui est morte. Ils sont allés tous à son enterrement dans le Puy-de-Dôme, un truc comme ça. Vous voyez, c'est vrai, une vraie famille. Bon, vous avez compris, ok? Voilà. Alors, si vous avez compris, je vais aller un peu plus loin ce matin. Alors, déjà, je remets la notion du père, hein, qui est à l'origine de la patria, c'est-à-dire de la famille. C'est le Père qui a l'autorité. Et le Père céleste, il donne l'autorité. Et comment est-ce que, dans la Bible, comment la Bible décrit la notion d'autorité pour la première fois? Où voyez-vous dans la Bible les versets qui parlent de l'autorité pour la première fois qui est donnée à l'homme? Pardon? Oui, à l'homme. Oui, parce que l'autorité, c'est Dieu qui l'a. Mais à l'homme. Pardon? J'en parlais trop. Tu y es presque, mais c'est pas l'autorité qui l'utilise. Voilà, c'est la domination qui est l'autorité. Alors je vais vous le lire de Genèse 1, 26. Dieu dit, faisons l'homme. Donc là, il n'a pas encore fait, mais il était en train de le faire. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine. C'est le mot dominer qui est l'autorité, qui est le terme d'autorité. L'autorité, c'est dominer. Alors vous voyez que les mots changent de sens avec les années, parce qu'aujourd'hui, le mot dominer, c'est pas du tout ce que Dieu voulait dire. Aujourd'hui, dominer, c'est j'oblige quelqu'un à m'obéir par la force. Sinon, j'emploie les armes, j'emploie la guerre, j'emploie tout pour qu'il m'obéisse. Il faut qu'il me soit obéissant. C'est pas du tout, ça c'est le péché qui a amené ça. Mais le mot dominer, qui est le terme, je dirais, approprié pour décrire l'autorité de manière concrète, comment j'exerce l'autorité, je domine, c'est un terme qui est de donner un nom. Donner un nom. Allô? Vous voyez? Quand Dieu a donné l'autorité, quand il a dit domine, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Adam, bah, tu ferais venir tous les animaux. Donc tiens, tu viens. Je suis désolé, je te prends pour une... Non, non mais c'est juste pour... je sais qu'il aime bien. Voilà. Admettons que ce soit une girafe. Voilà, il vient ici. Et le terme dominé, c'est que l'être humain, qui est au-dessus de la création, il devait trouver un nom qui décrit quelque chose. Alors pourquoi girafe, j'en sais rien du tout. Pourquoi lion, je ne sais pas. Mais voilà, il devait donner un nom pour qu'à chaque fois quand il disait ce nom, il se représentait eh bien, l'animal en question d'une certaine manière. Voyez. Et donc, il faisait venir... l'idée, c'est que Dieu a délégué cette gestion à l'homme. Voyez-vous? Dieu ne fait pas tout. Nous, on coopère dans sa création. Donc, la première chose qu'il a demandé, c'est donner un nom. Et c'est pour ça que dans quand vous êtes père ou mère de famille, donner un nom, Jean-Gilles, je ne sais pas comment il a été donné ce nom, mais c'est une autorité, vous voyez, que après vous portez tout le temps, ce nom. Voilà, merci beaucoup. Donc, dominer, c'est prendre autorité sur. C'est-à-dire, l'homme peut dire à la girafe, tu arrêtes maintenant ton cirque là, tu es gentil, voilà. Et il donne des ordres pour que la terre soit dans l'ordre, qu'il n'y ait pas le chaos tout le temps. Hein. Et c'est pour ça que. Là, n'écoutez pas, c'est peut-être pas inspiré, je sais pas. Non, je sais pas, c'est peut-être pourquoi David pouvait avoir telle force sur les lions, etc. Vous voyez, parce que il avait déjà en lui cette autorité que Dieu va utiliser plus tard. Vous voyez. Je sais pas. Bon, ça c'est de moi, c'est de la spéculation pure. Mais juste pour dire que, mais parfois, il y a des chrétiens quand ils sont en situation de danger, et c'est beaucoup arrivé chez les missionnaires, ils peuvent dire à un lion. Au nom de Jésus, je t'arrête et il s'arrête. Vous voyez, vous avez l'autorité. Bon, ça ne se passe pas tout le temps comme ça, mais c'est juste une idée pour dire que dominer, c'est prendre autorité sur, au travers d'un nom. Le nom. Or, en tant que chrétiens, nous avons reçu le nom de Jésus. Nous sommes des chrétiens, des petits chrétiens, petits Christ. Et ce n'est pas le hasard. C'est parce que nous devons nous comporter avec le nom qui est au-dessus de tout nom, qui est l'autorité au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute principauté, de toute chose qui se dit dans le ciel et sur la terre, et c'est par le nom de Jésus que nous avons l'autorité. Mais nous ne devons pas l'utiliser n'importe comment. C'est un nom qui est saint. On ne dit pas au nom de Jésus, maintenant, écrase celui-là. Vous voyez, c'est... Hein. C'est pas fait pour écraser les autres, vous voyez. Mais faisons attention. Hein. On peut parfois utiliser le nom de Jésus n'importe comment, et là c'est mauvais. Donc donner un nom, voyez-vous, c'est l'autorité. Je vous emmène dans un autre texte qui va illustrer mon propos, dans Galates chapitre 4 verset 24. Galates chapitre 4 verset 24. Alors je lis le contexte en lisant le verset 22. Car il est écrit qu'Abraham, Elsa l'a cité ce matin, Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et l'autre de la femme libre. Mais celui de l'esclave fut engendré selon la chair, et celui de la femme libre en vertu de la promesse. Alors ça c'est très important de comprendre cette histoire, parce que c'est l'histoire de l'humanité, et l'histoire des familles. Donc vous avez Abraham, qui, rappelez-vous, est le père de quoi? Non, le père de la foi. Amen. C'est le plus important, hein, parce que Moïse, Isaac, machin, sont morts, mais la foi, elle demeure. Hein. C'est le père de la foi, pardon? Oui, non, il a raison. Mais moi, je préfère le père de la foi plutôt que le père d'Isaac, parce que le père de la foi, ça c'est une valeur du royaume, la foi. C'est l'ADN du royaume, la foi. Abraham eut deux fils. Un s'appelait comment? Isaac, Ismaël. Quel est le premier qui est arrivé? Ça c'est le premier. Et ça c'est le deuxième. Pourquoi Ismaël est arrivé avant Isaac? Parce que... J'écoute la suite. Ah non, c'est pas à cause de ça. C'est à cause de quoi? C'est pas la raison. C'est quoi la raison? Voilà. C'était un sentiment religieux. Et la religion, elle est dès le départ. C'est la chair. Pas la chair au sens de sexuel, hein. Je veux dire, d'ailleurs, Sarah a donné sa place à la servante pour faire le travail, c'est Agar, hein, c'est est venu d'Agar. Lui, il est descendu de qui? Il est la mère, et c'est qui, Isaac? Pardon? Non? Non? c'est le Saint-Esprit. Sarah, c'est la première mère porteuse. C'est une mère porteuse. Hein. Non, je dis ça parce que c'est le même principe que Marie. Marie, c'est une mère porteuse. Mais celui qui l'a conçue, c'est... Pourquoi je dis ça? Parce qu'il était impossible pour Sarah, à son âge, d'avoir un enfant. Voilà. Donc, c'est une mère porteuse. Hein. C'est la GPA de l'époque. Et c'est le Saint-Esprit qui a conçu l'enfant. C'est l'enfant de la promesse. C'est-à-dire qu'il est né d'en haut. D'en haut. Pas d'en bas. D'en haut. Ok, vous voyez ce que ça veut dire? Ici, c'est la naissance d'en haut. Et ici, c'est la naissance d'en bas. Vous voyez? Alors cette histoire, si vous la comprenez bien sur le plan spirituel, elle est une clé pour toute la Bible. Regardez. L'apôtre Paul la prend comme clé. Il dit, il y a là une allégorie. L'allégorie, c'est quoi? Alors, c'est encore un mot, Olivier va dire, on s'en fout des mots. Hein? Non, j'exagère, mais allégorie, ça veut dire quoi? Oui, mais une image particulière. Plus, creusée. La République française a une allégorie. C'est qui? Marianne. C'est une idée abstraite, élaborée, fabriquée, mais dont les détails, c'est ça qui est important, chaque détail a une signification. C'est ça l'allégorie. Vous prenez une parabole. Une parabole, c'est une image de tous les jours, mais vous n'allez pas vous attarder sur tous les détails. Les gens qui prennent des paraboles et qui veulent faire dire à la parabole tous les détails, ils se plantent. Et d'ailleurs, celui qui s'est planté le plus, c'est un père de l'Église, qui était à Alexandrie, qui s'appelait Plotin, et qui a fait l'allégorisation, il a allégorisé la Bible, et aujourd'hui encore, beaucoup de pasteurs utilisent ces allégories. C'est faux. La parabole n'est pas une allégorie. La parabole, c'est une image. L'allégorie, c'est que chaque détail a son importance. Par exemple, vous prenez Marianne, moi j'ai beaucoup étudié le sceau de Marianne, le sceau du roi, enfin le sceau de la République, si vous voulez, qui scelle les documents officiels. Quand vous regardez l'allégorie, c'est une image artificielle. Vous ne voyez jamais une femme comme ça, avec une nue en nos pieds, avec un machin, avec une lance, avec un truc, etc. Voilà. C'est parce que chaque détail, par exemple le suffrage universel, c'est représenté par la cruche, etc. Enfin, chaque détail, celui qui a dessiné le sceau de Marianne, voulait que chaque détail renvoie à une réalité de la République. Voilà. Alors, l'allégorie ici, revenons à la Bible. L'allégorie de Galates, de ces deux femmes, quelles sont... Là, vous pouvez prendre tous les détails, voyez. Là, ce n'est pas de la parabole, c'est de l'allégorie. Donc, chaque détail d'Isaac, chaque détail de Sarah, oui, chaque détail d'Agar, etc., est signifiant. C'est-à-dire qu'il signifie quelque chose de réel dans le monde spirituel. Vous voyez, je vais vous mettre sur des pistes, des clés de lecture biblique. Alors, quelles sont les pistes? Vous en voyez quelques-unes des pistes entre cette généalogie-là et cette généalogie-là. En dehors du fait que là, c'est les Juifs et là, c'est les Arabes. Vous voyez, aujourd'hui, ils se battent dessus. Bon, ça, c'est une des conséquences. Mais au-delà de ça, la question, c'est l'allégorie. L'allégorie, c'est une image dont chaque détail a son importance. Or ici, on a l'allégorie des deux femmes, Agar et Sarah. Okay, c'est la Bible qui le dit. Ce que je voudrais, c'est que vous compreniez quels sont les détails qui ont des significations pour votre vie spirituelle, pour ma vie spirituelle. Allégorie. Car les deux femmes sont deux alliances. Voyez-vous ? Là, une alliance, alors je les dessine avec deux anneaux, sont deux alliances. Voyez-vous ? Donc vous voyez déjà qu'on s'écarte du personnage d'Isaac et d'Ismaël. On va vers des alliances. C'est deux alliances. Okay ? Deux alliances, alors je continue à lire. C'est Agar. Ah non, pardon. Non, non, non. C'est deux alliances. Il faut que je lise au fur et à mesure. L'une, celle du mont Sinaï, enfante pour l'esclavage, c'est Agar. Donc, la Bible nous dit que Agar, c'est ici. Hein. Donc, ici, c'est le mont Sinaï. D'accord ? Voyez-vous le renvoi ? On renvoie vers une réalité qui est le mont Sinaï. Hein, alors que ça n'a rien à voir avec l'image d'Agar. Mais c'est ça l'allégorie. Il faut voir la signification derrière. Donc, celle du mont Sinaï qui enfante pourquoi ? Pour l'esclavage. Donc, encore un mot qu'on peut mettre là-dessous : esclavage. Voilà. Donc, tout ça, c'est des réalités là. Hein. On parle de réalité, esclavage. Elle correspond à la Jérusalem actuelle. Et encore un truc, Jérusalem actuelle. Entre autres, mais pas que ça. Jérusalem actuelle. Ensuite, on continue. C'est elle qui est notre mère. Mon papier a glissé. Car elle est dans l'esclavage avec ses enfants. Voilà. Mais on change. La Jérusalem d'en haut est libre. Donc ici, c'est la Jérusalem d'en haut. Céleste. Elle est libre. En opposition à l'esclavage. Et ici, c'est pas le mont Sinaï, c'est Jérusalem. C'est la maison, la cité de paix. Cité de paix. Ici, mont Sinaï, c'est quelle représentation ? C'est la loi. Ok ? Ils ont reçu la loi. Sur le mont Sinaï, Dieu a donné la loi. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Alors, je continue. En effet, il est écrit : Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes pas. Éclate de joie et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme qui a son mari. Pour nous, frères, comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. Encore un mot qui est important ici, c'est les enfants de la promesse. Bien sûr, cette promesse s'était donnée à Abraham pour Isaac, mais nous, aujourd'hui, nous sommes les enfants de la promesse. Mais comme autrefois, celui qui avait été engendré selon la chair persécutait celui qui l'avait été selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Donc aujourd'hui encore, il y a des persécutions entre les deux. Persécution. Se chamaille. Se chamaille. Parce que là, et où les mots, il faudrait d'autres stylos que le noir pour bien illustrer ça. Ça, c'est la chair, ça, c'est l'esprit. La chair combat l'esprit. L'esprit combat la chair. Ils ne sont pas miscibles. C'est comme l'huile et le vinaigre. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez agiter, mais dès que vous reposez, pchoum, ça se sépare. C'est pour ça le torrent qui purifie dit marchez selon. Vous qui êtes chrétien, marchez selon. Sylvestre, dis-le très fort. Vous qui êtes chrétien, toi qui es chrétien, marchez selon. Eh oui. Voyez-vous, il faut bien comprendre cette allégorie. Cette allégorie, c'est une réalité qui a bien sûr existé il y a quelques milliers d'années, mais qui est toujours actuelle. La Bible dit c'est actuel, c'est actuel, c'est actuel, c'est aujourd'hui, c'est pour nous, c'est pour moi. C'est-à-dire qu'il y a un combat entre la chair et l'esprit. Parce qu'en moi, il y a la chair, la famille naturelle, et en moi, il y a l'esprit, la famille surnaturelle. Et en moi, il y a des tensions. Ah ouais, ça se combat, ça se combat, ça se combat. Comment est-ce qu'Abraham, donc on reste sur l'allégorie, on revient de l'allégorie à la réalité, de l'allégorie à la réalité, vous voyez, la signification de l'image et la réalité. Comment est-ce qu'Abraham s'en est sorti ? Pour avoir la paix. Et il l'a chassé. Voyez-vous, le problème, alors je vais vous donner une grande vérité, écrivez-la bien en rouge partout. Le problème, c'est que on ne se débarrasse pas de la chair en l'ignorant. On se débarrasse de la chair en la fuyant. Et oui. Les chrétiens qui veulent être chrétiens spirituels, un jour, c'est une confidence, mais je ne dirai pas qui, un pasteur très réputé m'a dit, tu sais André, les pasteurs, c'est des gens spirituels. Ok, parce que là je suis d'accord. Il m'a dit, un pasteur, c'est un homme spirituel qui est juge de tout. Et il n'est jugé par personne. Et je dis, waouh. Waouh, quelle compréhension. Ça m'a fait froid dans le dos. Hein. Mais il le croyait, attention. Alors quand vous croyez une chose pareille, il n'est pas étonnant qu'en tant que pasteur, si vous croyez ça, vous êtes spirituel. Vous jugez de tout, vous jugez les croyants, et les croyants, voilà, vous êtes sur la chair. D'ailleurs, je devrais être sur une chair, vous voyez, pour être un peu plus haut que vous, pour montrer que je suis plus haut que vous, voyez. Ça amène tout ça. Ce qui est une hérésie absolument totale, et vous le comprendrez plus tard. Mais voilà, c'est la chair. La chair, elle se croit tout permis, et donc il faut la fuir. Il faut s'éloigner. Il faut... Dieu lui a dit, tu dégages. Tu as fait cet enfant, bon, ok, moi je l'aime, il sera béni d'ailleurs, mais il n'a rien à voir là, c'est fini ça. C'est l'enfant de la promesse, regarde d'ailleurs, ces deux familles se chamaillent là. Tu vois, la paix, il n'y a pas de paix dans ta famille là. Ils se chamaillent sans arrêt. Ils se crêpent le chignon, ils sont de la jalousie, des machins, tout, voilà, ça amène tous ces désordres là. Il ne peut pas y avoir de paix dans la famille quand il y a des choses comme ça. Donc, Ismaël, hop, tu dis, c'est dur. Mais ce n'est pas le problème de Dieu, c'est Abraham parce qu'il a fait des bêtises. Et nous aussi, on a fait des bêtises. Et très souvent, il faut qu'on paye nos bêtises. Donc, il vaut mieux éviter des bêtises. C'est pour ça, dans cette église, on a une vision de la famille, ça commence par les petits, les tout petits. On commence à leur donner, et merci Seigneur pour les ministères qui ont été donnés à cette église, pour les tout petits. Ensuite les plus grands, ensuite les plus grands, ensuite les plus grands. Hello ? Vous me comprenez ? Parce que la Bible dit « Enseigne l'enfant dès sa jeunesse, et il ne s'en détournera pas. » C'est la promesse. La promesse. Si on compte sur les promesses du Seigneur, eh bien, on a le résultat attendu. On a la bénédiction, on a la paix. Jérusalem, ville de paix. Amen. Voilà, je ne sais plus où j'en suis. Alors, vous voyez, j'ai anticipé la parole, je ne savais pas. Verset 30. Or, que dit l'Écriture ? Chasse l'esclave et son fils. Car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ainsi, mes frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. C'est pas un constat, ça. C'est une déclaration. Parce que nous sommes enfants de l'esclave. Puisque nous sommes nés dans la chair. Nous sommes nés de la nature adamique. Mais c'est une déclaration. Et dit maintenant, ça suffit. Toi, chrétien de longue date, ça suffit. Tu veux la bénédiction, tu veux la grâce, tu veux rentrer dans les promesses. Eh bien, vis selon les promesses. Mais dégage la chair. Elle n'a rien à faire là. Donc marche selon l'esprit et non selon la chair, vivez selon l'esprit et non selon la chair. Vous voyez, c'est un ordre. C'est un ordre de bénédiction, c'est un ordre de promesse, c'est un ordre pour rentrer dans la destinée que Dieu nous a donnée. Alors, j'espère que vous encouragez tous à faire le TQP, ceux qui ne l'ont pas fait. Parce que c'est la base, et c'est pour ça que j'aime bien ce cours, parce qu'il donne les bases de ça en fait. Hein, moi je fais que répéter un peu maladroitement ce que dit très très bien le TQP. Chapitre 5. Ah, oh, merveilleux, chapitre 5. Verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Ah, c'est autre chose que la liberté de la République. Hein, avec la statue, même si elle est très haute à New York. Hein, c'est une liberté fallacieuse. C'est une liberté qui veut nous faire croire qu'on peut faire n'importe quoi. Et être béni quand même. Et non, la vraie liberté, c'est d'être en Jésus-Christ, une nouvelle création, et de vivre selon la promesse. Amen. Donc la liberté, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes, et ne vous demeurez fermes. Hein hein, Sylvestre, demeure ferme. Hein, et c'est vrai pour tout le monde, c'est vrai pour moi. Demeurez fermes, et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Voyez-vous, Paul est très clair là. Il ne dit pas que les chrétiens, c'est des petits anges. Il ne dit pas que c'est des petits anges, non. Il dit qu'il y a deux natures dans le chrétien. Et si on veut que la nature spirituelle l'emporte, il faut fuir et dégager la chair. Voilà. C'est un travail. C'est un travail de tous les jours. C'est un travail quotidien. Amen. Alors, pour introduire la suite, parce que il faut que je m'arrête. Mais là, vous pourrez vous parler des heures là-dessus. Pour revenir aux deux familles, je vais parler de l'Église. Église, ça veut dire en grec ecclésia. Et ecclésia veut dire quoi en français moderne? Assemblée. Ça veut dire assemblée. C'est tout, assemblée. Alors l'ecclésia de Jésus-Christ, c'est l'assemblée de Jésus-Christ. Mais assemblée, c'est tout, c'est neutre. C'est neutre, sauf qu'à l'époque, ecclésia est utilisé pour différentes choses, pour politique. C'est-à-dire l'ecclésia d'une cité, c'était l'assemblée de la cité, et grâce à ça, Paul a eu la vie sauve dans Acte 19, quand le régisseur a dit « Arrêtez, Paul, vous le laissez tranquille, parce qu'on n'est pas dans une assemblée légale ici. » Et donc, c'était très important à l'époque d'avoir une assemblée légale. Église, ecclésia. En fait, l'Église, c'est pareil, elle a deux natures, comme moi j'ai deux natures. L'Ecclésia, il a une nature charnelle et une nature spirituelle. Elle a une nature selon la promesse et elle a une nature selon la chair, mais je répète la chair, je vais trouver un autre mot. La promesse selon l'esclavage. Mais esclave. Ici, on est libre. Liberté. Esclavage. Les gens qui disent, y compris les pasteurs, qui disent, moi je suis spirituel, et voilà, qui ignorent ça, c'est une erreur. C'est une erreur grave, parce qu'elle conduit à des problèmes graves. D'ailleurs, il y a un dicton en français qui dit qu'il fait l'ange, qui veut faire l'ange, fait là. Il faut voir les choses en face. Nous, on est spirituel quand on est en Christ, mais quand on n'est pas en Christ, on est charnel. Nous, on est charnel, mais quand on veut être spirituel, on fuit le charnel, on devient spirituel. Vous voyez, on est ici dans un système de coopération avec Dieu quand on a compris qui on est en tant que chrétien. C'est tout. Donc, en fait, l'Église, elle a deux représentations, enfin, une fois de plus, image, représentation, ça renvoie à une réalité. Deux représentations de famille. Il y a une famille qui est une famille spirituelle et l'autre qui est une famille charnelle. Une appartient à la Jérusalem d'en haut et l'autre appartient à une Jérusalem d'en bas. Alors, si vous voulez une image qui représente ça, c'est l'image de la croix. La croix, la part verticale de la croix, c'est ça, et la barre horizontale, c'est ça. Ici, on est en relation avec Dieu. Ici, on est en relation avec les frères. Parmi les frères, nous ne sommes pas encore débarrassés de notre chair, nous sommes charnels. Et donc, l'Église a deux images qui sont utilisées dans les épîtres. Alors, il y a deux types d'épîtres. Il y en a qui connaissent ça, deux types d'épîtres. Bon, Aimé doit connaître ça. Deux catégories d'épîtres. Des épîtres qui sont adressées à des églises et d'autres églises, d'autres épîtres qui sont adressées à des pasteurs. Okay ? Ça s'appelle les épîtres pastorales. Et ça s'appelle les épîtres ecclésiales à des églises. Voyez-vous, par exemple, l'épître aux Romains, Paul dit, je m'adresse à vous, chrétiens de Rome, à vous, église de Colosse, aux membres de Colosse, etc., etc. Mais il y a des épîtres qui sont adressées à des pasteurs. C'est lesquels, Je vois qu'Elsa, elle cherche dans sa tête de se rappeler l'école biblique. C'est quoi les épîtres pastorales? Pardon? Timothée, Tite. Timothée. Timothée et Tite. Puis des mondes, d'autres, etc. Ok? Oui, c'est pas compliqué. Il faut appeler les choses par leur nom. Les épîtres pastorales, c'est adressé à Timothée parce que Paul voulait le former en tant que pasteur. Et Tite, c'est aussi un pasteur. Les autres, bah, je les nomme pas. Hein, c'est Colosse, Éphésiens, Corinthiens, Romains, etc. Et dans ces deux catégories d'épîtres, il n'y a pas les mêmes images de la famille. Alors, quelle est l'image qui est utilisée dans les épîtres aux églises? Et quelles sont celles qui... Quelle est l'image de la famille qui est utilisée pour les pasteurs? Une idée? Oui, mais je parle d'église là. Je ne parle pas d'individu. Quelle est l'image de l'église? Il y a une image qui va être utilisée, une image qui représente. Ah. Oui, mais je la mettrai dans une autre catégorie. Elle rentre là-dedans. Mais alors, quelle est l'image de l'église qui est utilisée dans ces deux épîtres qui sont différentes? De l'église, hein, donc en tant que groupe, pas en tant qu'individu. Alors je vous donne la réponse. Ici, c'est le corps de Christ. C'est l'image d'un corps qui a des bras, des jambes, une tête. C'est qui la tête? C'est Christ. Voilà, c'est lui qui commande. Okay. Mais sinon, il y a des jambes, il y a des bras, il y a des orteils, il y a des foies, il y a le machin, etc. C'est l'image du corps qui est utilisée dans ces épîtres-là. Et dans l'épître au pasteur. Quelle est l'image qui est utilisée? Ah, c'est plus dur. Pardon? Non? Non? Pardon? Pardon? Oui. Alors, j'utiliserai d'abord le mot famille. C'est la famille. Famille naturelle, je veux dire. L'image de la famille naturelle. Ce qui va très bien avec la chair. Hein. Famille naturelle est dans la chair. Famille. Alors, effectivement, on trouve le mot maison. Mais le maison, c'est un dérivatif de famille. Tiens, monsieur Larousse, c'est quoi une maison? En partant de la famille. Je donne un exemple, la maison Rothschild. Ou la maison... vous voyez, c'est marqué souvent sur les vins, maison... C'est quoi? Tu commences à brûler là. T'es pas très loin. C'est tout simple. C'est de nouveau le mot pater qui est dedans. Le père. Vous voyez, c'est toujours le mot père dans la famille. C'est le patrimoine. Une famille qui n'a pas de patrimoine, elle ne peut pas s'appeler maison. Si vous mettez maison Rothschild et qu'il n'y a rien derrière, il n'y a pas de vin, il n'y a rien, ouais, ça ne s'appelle pas maison. C'est peut-être une famille. C'est du patrimoine qui transmet. Une ressource, une richesse, un patrimoine qui transmet. C'est ça la famille. On peut une maison. On peut s'appeler maison à partir du moment où on a un patrimoine. Ok. Or, effectivement, l'apôtre Paul utilise le mot maison pour dire attention, cette église, elle a un patrimoine à laisser. Or, notre patrimoine ici au Bergenville, c'est le patrimoine qu'on constitue par la vision, par l'ADN. Et puis c'est pour ça qu'on se rapproche de la CEF, par les valeurs du royaume, etc. Et c'est un patrimoine. On ne dit pas, bah tiens, c'est un pasteur, le pasteur Hubert. Bon, c'est quoi lui? C'est une fourmi, quoi. Il passe, et puis qu'est-ce qui reste? Il ne reste rien. Vous voyez, c'est pas le pasteur qui est le patrimoine. Le patrimoine, c'est l'ADN de l'Église qui est fondé sur une vision, des valeurs, etc. De cette maison. Voilà. Donc j'utilise plutôt le mot famille parce que vous voyez, quand je demande maison, on a du mal à répondre. Donc maison, c'est le terme utilisé. Vous êtes dans la maison de Dieu. Vous voyez, dans Timothée. Timothée 3.15. On l'a déjà lu, Timothée 3.15? Bon, on va le lire rapidement. Ça, c'est la base de l'église. Timothée 3.15. Si je tarde, donc Paul dit si je tarde à Timothée, eh bien tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Voyez-vous, le patrimoine, c'est d'être une colonne et l'appui de la vérité. Si une église locale n'a pas cette colonne de la vérité, elle va être balayée tôt ou tard. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Parce que l'ennemi, c'est le père du mensonge. Et aussi un autre père. Mais ce n'est pas le père de la vérité. Voilà, je termine là parce que je suis allé trop loin déjà. J'ai beaucoup de choses à partager après, mais c'est la famille maison et là, c'est le corps de Christ. Le problème qui est difficile quand on fait comme ça une explication comme je vous le fais, c'est qu'on dissèque les choses. On dit, voilà, une famille spirituelle, charnelle, mais c'est quoi ça? C'est beaucoup plus simple de vivre dans l'église et pas s'occuper du reste. Bah oui, mais c'est quand on ne s'occupe pas du reste, c'est là qu'on se plante. Et parce qu'on mélange tout. Okay, et là, on verra plus tard qu'ici, on a une forme associative ici, et ici, on a une forme congrégationnelle. C'est la congrégation, le troupeau du Seigneur, s'appelle une congrégation locale qui fait partie de l'église universelle. Et ici, c'est une association parce qu'on se met d'accord entre adultes sur ce qu'on croit, sur ce qu'on ne croit pas, sur ce qu'on accepte comme vision, sur ce qu'on accepte comme valeur. Et on est des gens adultes. La différence entre la famille naturelle et cette famille-là, c'est que la famille naturelle, on élève des enfants, alors que là, on élève des adultes. Et on se comporte en adulte. Et on se respecte en adulte. Et on se respecte par rapport à des contrats qu'on a passés ensemble. Voyez, c'est pour ça que nous, on forme les gens qui tout naturellement par le baptême ils font partie de ça. Ça, personne n'a un droit là-dessus, c'est que Dieu seul qui gouverne son église par Christ, mais ici c'est les gens qui veulent rentrer dans l'église pour partager le gouvernement, pour partager les services, là il faut qu'on se ait un commun accord. Ils étaient tous ensemble, acte 3, 43, d'un commun accord et ils partageaient leurs biens, ils partageaient, c'est ça la famille dont on parle sur la droite, elle est certainement imparfaite. Vous avez vu qu'à un moment donné, dans l'église, il y a Ananias et Saphira qui passent de l'autre bord. Vous voyez, c'est pas parfait, hein, l'église. Pourtant, ils faisaient partie de l'église. Bon, donc on ne parle pas d'une église parfaite ici. Par contre, ici, elle est parfaite. Celui qui est dans l'esprit, il ne peut pas pécher. Amen. Voilà. Mais tout ça, on va le développer plus tard. Je vais aller beaucoup trop loin dans ce que je vous ai dit.